Bonjour, aujourd'hui un carnage oublié de la Première Guerre mondiale. Il commençait il y a 90 ans, le 1er juillet 1916 à 7h30 du matin, la bataille de la Somme.
7:30. But that's broad daylight. That's not good.
Fix! Made it!
Deux mille ans d'histoire. Il y a 90 ans, le 1er juillet 1916, à 7h30 du matin, 60 000 soldats de la 4e armée britannique du général Rawlinson franchissaient le parapet de leurs tranchées, baïonnettes au canon. Leurs objectifs, les villages picards de La Boisselle, Fricourt, Mametz et Montauban. C'était la première vague d'une offensive franco-britannique qui devait briser un front qui n'avait pas bougé depuis 1914. Ils étaient venus d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, du Pays de Galles, mais aussi du fin fond de l'Empire britannique, pour mourir dans un pays qui a oublié cette bataille si meurtrière pourtant qu'on l'a appelée le Verdun des Anglais. Un sacrifice auquel le président de la République française, Albert Lebrun, rendait hommage 22 ans plus tard, en 1938.
Devant l'indifférence des choses, il était juste de rappeler à la mémoire des hommes le martyr héroïque de ces soldats venus de Queensland, de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, apporter leur concours désintéressé et mourir pour la liberté et le droit.
Stéphane Audouin-Rouzeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et co-auteur d'un ouvrage, La Bataille de la Somme, édité par l'Historial de la Grande Guerre, dont vous êtes un des directeurs du centre de recherche, un musée en fait, qui se trouve très précisément à l'endroit où s'est déroulée cette bataille de la Somme, il y a 90 ans tout juste, et une bataille qu'on a oubliée, dont on parle beaucoup moins que celle de Verdun, alors qu'elle a été, dites-vous, la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale, la plus meurtrière aussi.
Oui, et c'est peut-être même dans une certaine mesure la plus grande bataille du XXe siècle, en tout cas du XXe siècle occidental. On le voit à travers les pertes, qui sont évidemment l'indicateur le plus simple, en même temps le plus tragique.
Plus importante qu'à Verdun.
Oui, Verdun, en 10 mois, provoque des pertes de 770 000 hommes, ce qui est absolument effrayant, dont 300 000 morts. Hein, français et
les
allemand.
Pertes, c'est tuer, blessé, disparu.
Oui, c'est ça. Tuer, blessé, disparu. Et parmi ces pertes, donc 300 000 morts à Verdun. Et la Somme, dans un temps plus court, dans une bataille de 5 mois, enregistre, si l'on peut dire, des pertes de plus d'un million d'hommes, dont 400 000 tués.
Mais pourquoi justement parle-t-on plus souvent de Verdun que de la Somme? Pourquoi a-t-on oublié cette bataille de la Somme?
Parce que Verdun est une bataille franco-allemande, donc et c'est en outre une bataille défensive pour les Français. Donc elle est en quelque sorte la bataille emblématique de la guerre de 14 pour les Français. Alors que la Somme, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une bataille anglo-saxonne, allemande et française, et où les Français jouent un rôle important, mais un rôle second par rapport aux anglo-saxons et aux allemands, et donc elle ne s'est pas ancrée comme l'a fait Verdun dans la mémoire nationale.
Par rapport aux anglo-saxons et notamment à cette armée britannique qui arrivait en France dès le début de la guerre en 1914 et sans savoir bien sûr les horreurs qui les attendaient.
Vous allez poser le pied sur le sol français. Maintenez les traditions de la vieille Angleterre et combattez comme des soldats britanniques.
Thank you. It's a Long Way to Tipperary, une des chansons les plus célèbres, bien sûr, de la Première Guerre mondiale et que chantaient sans doute ces soldats britanniques qui arrivaient en France en 1914. Une armée qui, en 1916, deux ans plus tard, au moment de la bataille de la Somme, était commandée par le général Haig, le général britannique Haig, qui était totalement indépendant de l'état-major français, Stéphane-Audouin Rouzeau.
Oui, il y a bien sûr une coordination entre les alliés. La bataille de la Somme a été d'ailleurs décidée donc à une conférence interalliée de la fin de l'année 15. Mais cette coordination n'implique pas une supériorité, une suprématie du commandement français. Cette suprématie ne sera établie qu'à la fin de la guerre, en 1918. Et de ce point de vue, le commandement anglais, effectivement, mène sa bataille de la manière dont il l'entend. D'autant que, évidemment, c'est lui qui a les troupes les plus importantes et le rôle le plus important au plan stratégique sur la Somme.
Sur le front de la Somme. Et alors avec une armée qui est une armée de volontaires.
Oui, c'est une chose qui sans doute surprend beaucoup les Français, c'est que, alors que l'armée française, l'armée allemande sont des armées de conscription, l'armée anglaise est une armée de volontaires. L'armée de métier anglaise a été consommée, si l'on peut dire, dès les batailles des frontières de 1914. Et Kitchener, donc ministre de la guerre, a très vite compris, dès le début du conflit, que celui-ci durerait, qu'il fallait une force militaire plus importante. Et il lance, donc, il crée une armée de volontaires et un volontariat qui a été massif, puisque au total, de l'été 14 jusqu'à début 16, eh bien, 2,5 millions de Britanniques se sont portés donc volontaires. Et c'est cette armée de volontaires, l'armée des copains, les Pals Battalions, eh bien, c'est cette armée donc formée, aguerrie au cours de l'année 15, qui vient se fracasser sur les défenses allemandes de la Somme en juillet 1916.
Alors avec des Britanniques du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, mais aussi, et on l'a entendu dans cet hommage que Albert Lebrun leur rendait 22 ans plus tard, il y avait tout l'Empire britannique qui était là.
Oui, c'est évidemment là aussi, c'est en ce sens que la bataille de la Somme est vraiment la bataille emblématique de la guerre mondiale, car tout l'Empire britannique y est, et notamment les dominions de l'Empire, c'est-à-dire les colonies blanches devenues indépendantes, mais dont le lien avec la mère patrie reste très fort. Donc il y a les Australiens, tous volontaires, les Néo-Zélandais, tous volontaires, les Canadiens, les Terre-Neuviens, les Africains du Sud, et pour ces contingents donc venus de très loin, eh bien, la bataille de la Somme est en grande partie la naissance au fond de l'État national.
Alors cette bataille n'a pas été seulement menée du côté allié par les Britanniques, il y a aussi, ils entreront dans les vagues qui suivront, les vagues d'assaut qui suivront, il y a aussi l'armée française qui est au sud de la Somme à ce moment-là.
Voilà, le front britannique s'étend de la mer du Nord jusqu'à la Somme, à peu près, et les Français prennent la suite de la Somme jusqu'à l'Alsace. La Somme est au fond le point de jonction, le fleuve lui-même est le point de jonction des armées françaises et anglaises. Au départ, les Français devaient avoir un rôle aussi important que les Britanniques dans la bataille sur un front qui était initialement prévu de 80 km de large. Et puis, en raison du déclenchement de la bataille de Verdun en février, les Français ont dû basculer une partie de leurs troupes sur Verdun. Et le front s'est trouvé rétréci en quelque sorte de 80 km jusqu'à 40. Les Français ne gardant qu'un rôle second, important mais second, au sud et très légèrement à cheval sur la bataille de la Somme.
Alors, les Français...
sur la rivière, sur le fleuve de la Somme, pardon.
Les Français, c'est exactement comme pour les Britanniques, il y a des Français de France et puis il y a des Français des colonies. Enfin, il y a des colonies.
Bien sûr. Au total, on considère aujourd'hui que 25 nationalités différentes ont combattu sur la Somme, dont effectivement les hommes donc d'Afrique du Nord, les hommes donc d'Afrique noire, essentiellement de l'Afrique de la OEF, de l'Afrique occidentale française, qui ont également combattu. Ce qui fait de la Somme un creuset absolument extraordinaire. Au total, on considère que 4 millions d'hommes, en 5 mois, toutes nationalités confondues, se sont relayés sur ce territoire. Une remue d'hommes absolument extraordinaire par sa densité qui a mêlé la plus grande partie de la planète.
Et bien sûr, en face, deux armées allemandes, je crois, qui étaient aussi importantes. Les effectifs allemands, les rapports de force à ce moment-là, au moment où elle va commencer.
Les Allemands sont nettement en situation d'infériorité démographique. Au total, quand je dis 4 millions d'hommes, disons qu'il y a du côté allié 2,5 millions sur 5 mois, avec toute une rotation, du côté allemand 1,5 million d'hommes. Et donc la situation est de ce point de vue
favorable
d'infériorité de l'armée allemande. En revanche, compte tenu de la supériorité de la défensive sur l'offensive pendant la guerre de 14, et compte tenu aussi de la qualité des retranchements allemands dans des bunkers en béton très profondément enterrés, eh bien la capacité défensive des troupes allemandes est considérable. Et c'est bien là, évidemment, une des caractéristiques de la bataille.
De la bataille qui ne commencera que le 1er juillet 1916, après d'ailleurs une intense préparation d'artillerie, une offensive annoncée dans les tranchées britanniques la veille de la bataille.
Attention!
Sergeant, sir.
Men, the battalion's objectives are the enemy lines in front of the village of Montauban.
L'objectif du bataillon, c'est les lignes ennemies devant Montauban. Je peux vous assurer qu'après ce pilonnage, aller au feu sera une vraie balade. À Montauban, il n'y aura plus un seul Allemand vivant. Pas même un rat n'aura survécu. Nous devons avoir pris Montauban à 11h. Je vous assure que le succès est garanti. Les pertes ne devraient pas excéder 10% et vous irez jusqu'à Bapaume avant de croiser un seul Allemand. Pouces dressés, haut les casques et hurra.
Hats off, big cheer.
Et c'était un extrait de l'excellent film de William Boyd, La Tranchée, l'histoire d'une unité de l'armée britannique sur la Somme en 1907. Quel était l'objectif justement des franco-britanniques en attaquant sur la Somme le 1er juillet 1916, Stefano D'Arruzzo ?
Bien, l'objectif du big push, comme on disait dans l'armée anglaise, c'est d'abord de retrouver le mouvement. Un mouvement que toutes les armées ont perdu dès la fin 14.
Oui, s'enterre dans les tranchées, c'est la guerre de position.
La guerre de position, ouais. Il s'agit de retrouver le mouvement qu'on n'a pas réussi à trouver en 15. Mais là, on espère le retrouver en particulier par une concentration d'artillerie spécifique et un assaut vraiment massif. Il s'agit en fait de percer le front allemand et de se saisir des nœuds de communication qui se trouvent dans le nord de la France et qui servent évidemment aux Allemands, puisque c'est eux qui occupent cette région. Et en se saisissant de ces nœuds de communication d'une importance stratégique capitale, d'imposer au fond au dispositif allemand à l'ouest un dommage définitif qui... S'il ne permettait pas de gagner immédiatement la guerre, en tout cas, changerait complètement la donne sur le front ouest. Voilà l'objectif stratégique.
User les Allemands, de même que les Allemands voulaient user l'armée française à Verdun, c'est un peu au fond l'équivalent de Verdun au nord.
Cela dit, je crois que dans le cas de Verdun, il semble bien que effectivement l'objectif est celui d'une usure en forçant les Français à se concentrer dans un espace relativement restreint où on les écraserait par l'artillerie. Dans le cas de la Somme, il s'agit vraiment de percer. Il s'agit de faire un trou dans le front adverse.
Alors, percer, ça veut dire percer, traverser, prendre les tranchées adverses.
Absolument.
Alors là, c'est vrai aussi pour Verdun, c'est vrai pour tout le front jusqu'en 1918. Il faut rappeler quand même que ces tranchées, c'est quelque chose qui semble et qui va se révéler être quasiment imprenable, très difficile à prendre. Il faut traverser l'espace qui sépare les tranchées allemandes des tranchées franco-britanniques, ce qu'on appelle le no man's land. Il y a des mines, des fils de fer barbelés. Et malgré l'apparence archaïque, au fond toute simple de ces tranchées, c'était extrêmement difficile et on s'en rendra compte sur la Somme, Stéphane.
Oui, le système de tranchées, on se rend bien compte de ce qu'il voulait dire quand on va un peu sur le terrain. Il y a le no man's land, effectivement, l'espace de plusieurs dizaines de mètres qui sépare, parfois plusieurs centaines de mètres, qui sépare les premières lignes adverses, elles-mêmes occupées par des réseaux de barbelés extraordinairement denses, et puis évidemment avec les tirs de barrage de l'artillerie et les tirs de barrage des mitrailleuses qui font de cette zone du no man's land une zone de mort. Pour les survivants qui ont franchi le mur de feu, qui ont franchi le mur d'acier qui leur est opposé, eh bien, il y a la première tranchée avec évidemment tous les risques des corps à corps qui peuvent s'y produire. Mais après la première tranchée, eh bien, il y a la deuxième ligne de tranchée, puis la troisième ligne de tranchée, etc. Et tout, jusqu'à la fin de la bataille, les alliés ont progressivement accru leur percée dans le système adverse, malgré leurs échecs. Mais à la fin de la bataille, même après avoir progressé dans le système de tranchée adverse, il restait encore plusieurs lignes qui étaient édifiées par l'adversaire.
C'est parce qu'elles sont très difficiles à prendre qu'à chaque fois qu'on lance une offensive, il y a, on l'a entendu, une très très longue préparation d'artillerie. Sur la Somme, je crois qu'elle a duré une semaine avant l'assaut.
Oui, c'est le plus gros bombardement de la Grande Guerre. Elle a duré, effectivement, cette préparation d'artillerie une semaine, jour et nuit. Elle a été d'une intensité effroyable. Elle a d'ailleurs mis l'armée allemande, malgré ses protections, au bord de la rupture. La rupture ne s'est pas produite, mais l'armée allemande est vraiment au bord de la rupture, tellement les pertes en hommes et en officiers sont fortes hein, pendant cette période. Et d'ailleurs, l'intensité du travail d'artillerie a énormément impressionné le commandement allemand, qui s'est rendu compte à ce moment-là des progrès qu'avaient fait les alliés dans la maîtrise de l'artillerie. Et cette préparation d'artillerie était indispensable pour justement briser les réseaux de barbelés, briser les défenses, les lignes mitrailleuses. Néanmoins, sur la Somme, cette préparation d'artillerie n'a pas été suffisante.
Et qui mettent les nerfs des Anglais, des Français, des Allemands aussi à rude épreuve, surtout avec l'angoisse que suppose l'offensive qui s'annonce, qui se prépare et qui se produit comme prévu le 1er juillet 1916, c'était il y a 90 ans, à 7h30 du matin.
7:30.
Fix ! Bayonnette !
Bayonnette au canon.
I can't do it. I can't go.
Je ne peux pas y aller.
I'm up first. You're right behind me, McFarlane.
Allez, je grimpe le premier. Tu me suis, McFarlane. Oui, sergent.
So, what do we do now, Sarge?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend.
Alors c'était un autre extrait du film de Stephen Boyle, La Tranchée, le jour où commençait la bataille de la Somme, et à 90 ans, le 1er juillet 1916. Un film très réaliste, vous qui connaissez très bien cette guerre, Stefano Doaruso, le moment où l'on sort de la tranchée.
Oui, c'est un huis clos, hein, ce film extraordinaire, un huis clos où vraiment on assiste à cette dernière semaine justement qui précède l'assaut, et l'incroyable tension de l'attente, qui était sans doute une des épreuves morales les pires qu'avaient à supporter les soldats, et ce moment de la sortie de tranchées où les hommes s'exposent nus en quelque sorte à la barrière de fer hein, qui leur est opposée. Et c'est vrai que ce moment où les hommes vérifient sur les montres l'horaire, mettent baïonnette au canon et doivent sortir sous le feu est un moment extraordinairement poignant et qui vers lequel converge finalement la totalité du film.
Et angoissant, on le comprend d'ailleurs, parce que le premier jour de cette bataille, le 1er juillet 1916, a été, dans cette bataille qui a duré 4 mois, le pire jour pour l'armée anglaise en tout cas.
Oui, c'est-à-dire que tout le problème, c'est que les Britanniques étaient persuadés que leur bombardement d'artillerie aurait brisé donc les défenses allemandes, notamment aurait réduit les lignes mitrailleuses à néant, et que leur souci était non seulement de prendre la première ligne, mais les lignes suivantes. Et donc pour ça, il fallait éviter que les liens tactiques au sein des unités d'assaut soient rompus, et donc il fallait éviter que les soldats courent et se perdent leurs officiers, etc. Donc la consigne est, on avance au pas, à peu près en ligne, pour prendre la tranchée, la première ligne calmement, et pouvoir ensuite faire le travail. Et cette erreur, cette sous-estimation des défenses allemandes dramatique a fait que les Allemands ont pu réoccuper, dès que le bombardement a eu cessé, les bombardements ont pu réoccuper leur position de combat, commencer le tir. Et d'ailleurs, on a des témoignages de soldats allemands stupéfaits de voir des soldats à l'assaut avançant debout sans se presser.
Oui, marcher ou pas, c'était l'ordre.
Voilà, et ceci a été une catastrophe tactique. En outre, la difficulté des communications fait que le commandement britannique ne commence à comprendre la catastrophe que vers midi. Donc il s'écoule, n'est-ce pas, toute la matinée avant que le commandement britannique prenne la décision de retenir les secondes vagues d'assaut. Et ceci donc se traduit par des pertes de 60 000 hommes pour l'armée britannique, de 20 000 tués, 40 000 blessés.
En un jour.
Et en une seule journée, il n'y a pas au XXe siècle, il n'y en a pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas ensuite, il n'y a pas au XXe siècle de journée plus meurtrière que celle-ci hein, dans l'histoire du modèle occidental de la guerre.
Et ça a duré 4 mois, cette bataille de la Somme, Stefano Doaruso. Là, c'est une question qu'on pose toujours. Comment des gens ont-ils pu tenir dans un tel enfer? Évidemment, à la limite, on peut le comprendre, pour les Français, à Verdun, ils se battent dans leur pays et ils se battent pour défendre leur pays. Mais là, on a des Australiens, des Anglais, des Néo-Zélandais, on a les troupes coloniales françaises qui, elles, ne sont pas dans leur pays.
C'est presque impossible à comprendre aujourd'hui. Mais même pour ceux qui viennent de très loin, on pense effectivement aux coloniaux, de l'Empire britannique, de l'Empire français, pour les Anglais qui après tout ne défendent pas en apparence du moins directement leur territoire, eh bien en réalité, les motivations de la guerre restent des motivations défensives. C'est-à-dire que l'on continue, on défend, donc en l'occurrence sur la Somme, on défend un certain mode de vie, une certaine conception du monde, et la guerre reste étonnamment défensive alors qu'on ne défend pas directement en quelque sorte son territoire comme effectivement les Français le font à Verdun. Et, et la compréhension de ces motivations défensives, eh bien, c'est cette compréhension qui permet aussi de rendre compte de cette ténacité dont vous parliez.
Et tout ça pour pas grand-chose lorsque les opérations s'arrêtent en novembre. Finalement, le terrain conquis du côté par les Alliés a été assez négligeable. Il y a eu quand même l'apparition de nouvelles armes, ça n'a pas servi à grand-chose, il y a eu les tanks, les chars qu'on voit pour la première fois dans l'histoire à la bataille de la Somme. Mais finalement, le bilan est absolument nul. Cette offensive, on a le sentiment, n'a servi à rien, Stefano D'Arruzzo.
Oui, la pénétration donc, des troupes alliées dans le dispositif allemand, là où elle est la plus large, c'est 8 kilomètres. Donc au total, vous voyez, 400 000 morts, des pertes d'un million d'hommes pour une pénétration de 8 kilomètres. En outre, ce qui est encore plus tragique, c'est que les Allemands vont évacuer une grande partie du territoire qu'ils tiennent encore en 1917 pour raccourcir leur front. Donc vraiment, l'inutilité stratégique de la bataille est vraiment flagrante. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que les conséquences à plus long terme sont très grandes. Les Allemands, frappés par la supériorité tout de même des Alliés sur la Somme, même s'ils ont réussi à se défendre très efficacement, prennent, en raison de la bataille de la Somme, la très fâcheuse décision de la guerre sous-marine à outrance. Mmh. Et on ne peut pas comprendre cette décision au début 17 sans la bataille de la Somme. Et c'est elle qui, ensuite, par contre-coup, provoque l'intervention des États-Unis et donc provoque à plus long terme le basculement des équilibres globaux, au fond, de la guerre.
Un effet positif aussi, plus immédiat, c'est que ça a soulagé le front de Verdun, puisque les deux batailles se sont déroulées en même temps, à partir du 1er juillet 1916. Mais il y a eu aussi des changements de commandement. Il y a eu également la démoralisation. En 1916, après l'échec de la Somme, après l'échec allemand à Verdun, la démoralisation commence. On est loin de la guerre fraîche et joyeuse qui avait, dit-on, en 1914. Là, on commence à ne plus savoir quand est-ce que ça va finir, cette guerre de tranchées.
Oui, 16, de ce point de vue, c'est le tournant. Sur le plan moral, c'est le tournant. Fin 16, quand la bataille de Verdun s'arrête, que la bataille de la Somme s'arrête, pour des raisons d'intempéries, d'ailleurs. On arrête la bataille de la Somme en novembre parce que la boue ne permet plus de manœuvrer. Eh bien, les armées, donc en particulier les armées alliées, l'armée française en particulier, qui avait jusque-là tenu de manière extraordinairement efficace, eh bien, a une sorte de contre-coup. Et on voit en fait que c'est fin 16 que se met en place la crise du moral qui ne se révélera qu'en 17. Mais les composantes fondamentales de la crise du moral qui provoquera les mutineries de 17, ces composantes fondamentales sont en place en fait fin 16. Il y a vraiment la Grande Guerre en 15-16 et puis la Grande Guerre après 16.
Alors ce qui est curieux, je le disais au début, vous nous le rappeliez au début, c'est qu'en France, on l'a un peu oublié. Pourtant, il y a eu participation aussi de troupes françaises. En revanche, je crois qu'en Angleterre, évidemment, elle est commémorer peut-être avec plus d'importance qu'on ne le fait en France.
On le verra sur la Somme encore cette année. La masse de visiteurs britanniques attendus est énorme. C'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs avec des commémorations donc d'une importance considérable. La Somme, c'est vraiment un moment capital dans l'identité anglaise. Bon, il suffit de visiter les cimetières pour se rendre compte à quel point aujourd'hui les Anglais reviennent massivement sur la tombe d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, parfois d'un arrière-arrière-grand-père, ou un grand-oncle, ou un arrière-grand-oncle. Cette présence anglaise dans la Somme est considérable. C'est la fin aussi des illusions, au fond, de la période victorienne et édouardienne. Et puis c'est pour les nations récentes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc., c'est finalement la Somme fait partie du mythe national. C'est vraiment la naissance de la nation avec l'Angleterre et dans une certaine mesure, j'oserais dire presque contre elle. C'est-à-dire qu'au fond, on se différencie à ce moment-là de la mère patrie que l'on est pourtant venu aider volontairement.
Merci de nous avoir rappelé cette bataille, donc il y a 90 ans. Stefano D'Arruzzo, vous en parlez aussi, bien sûr, dans plusieurs livres. Vous avez co-dirigé avec Jean-Jacques Becker l'Encyclopédie de la Grande Guerre, publiée chez Bayard en 2004. Et vous êtes aussi l'auteur, avec Annette Becker, de 14-18, Retrouver la guerre, publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. À lire également La bataille de la Somme d'Alain Denisot, édité édité en poche chez Perrin dans les collections Timpus, et puis le très beau catalogue de l'exposition 1916, la bataille de la Somme, écrit en trois langues, français, anglais et allemand, et dont vous êtes un des auteurs, Stéphane Audouin-Rousseau, une coédition Sommegy et l'Historial de la Grande Guerre. L'Historial de la Grande Guerre, justement, où va se tenir une exposition dont vous êtes un des organisateurs, qui se trouve d'ailleurs située sur le site de cette bataille, qui a laissé des traces aussi physiques. Je crois qu'on a retiré en 2005 50 tonnes d'obus de cette bataille, encore rien qu'en une année. Alors, cette exposition aura lieu jusqu'au 10 décembre 2006 à l'Historial de la Grande Guerre, au château de Péronne dans la Somme. Avoir aussi Mon Papa en Guerre, un film de Jean-Pierre Guénaud et Axel Clévenot, réalisé à partir de la correspondance des Poilus et de leurs enfants, coédité par France Info et les éditions Montparnasse. Enfin, vous avez pu entendre des extraits du film La Tranchée, un film anglais de William Boyd, distribué en France par Mars Distribution. Toutes ces références, ainsi que le calendrier complet des manifestations organisées par l'Historial de Péronne jusque fin décembre, sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos, à documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi avec Yvan Levaille, Israël et la France. Mardi, Jean Cocteau. Mercredi, faut-il réhabiliter Judas? Jeudi, le Festival d'Avignon, 60 ans après. Et enfin, vendredi, pour le dernier 2000 ans d'histoire de la saison, un sujet de circonstance, les colonies de vacances. Il est 14h30 sur Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.